Il est 6h30 à Paris comme à Nice. Merci d'écouter RFI, 5h30 à Douala. Une demi-heure d'informations africaines avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et on débute avec le journal et cet événement très attendu par les défenseurs de l'environnement.
La troisième conférence des Nations Unies sur les océans, des eaux polluées, sujettes au réchauffement climatique et où les ressources se raréfient. Les océans qui recouvrent pourtant 70% de notre planète et qui abritent des écosystèmes vitaux. Le rendez-vous est pris à Nice, dans le sud-est de la France, et il est pris pour nous également sur RFI, la radio du monde largement mobilisée. De nos journaux à notre reportage tout à l'heure au large des Seychelles, en passant par notre invité Foga Agbetosou de l'Alliance pour un océan durable. Et puis une édition spéciale, bien sûr à ne pas manquer, en direct de Nice à partir de 6h10 en temps universel. Soyez vous aussi au rendez-vous, bien sûr. Dans l'actualité également, le domicile de Maurice Kamto, encerclé par les forces de l'ordre hier à Douala au Cameroun. Le chef du MRC, candidat déclaré pour la présidentielle d'octobre, empêché d'aller à la rencontre de ses partisans qui l'attendaient pourtant par milliers. Reportage sur place dans quelques minutes. Le Rwanda qui claque la porte de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Kigali dénonce une instrumentalisation de l'institution par la RDC et certains États membres. La recrudescence des faits de braquage à Kinshasa. Les autorités sont mobilisées. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus.
Troisième conférence des Nations Unies sur l'océan.
Le rendez-vous est éminemment important. La problématique qu'il aborde, du moins, car l'état de nos océans inquiète considérablement les scientifiques et les défenseurs de l'environnement. La troisième conférence des Nations Unies en la matière est donc attendue aujourd'hui, l'UNOC 3, qui se tiendra à Nice, sur la Côte d'Azur, en présence normalement d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. À l'heure du changement climatique, les alertes se multiplient sur la montée du niveau de nos mers et de nos océans, notamment. Une réalité qui menace déjà concrètement certaines populations insulaires, à l'image des habitants de l'île Plantin, au large de la Sierra Leone. À 70 ans, sur place, Alain Mohamed Camara a constaté impuissant ce phénomène, ainsi que la raréfaction des ressources halieutiques, les ressources de poissons. Il témoigne cet habitant ce matin sur RFI.
Je suis arrivé sur l'île Plantin il y a bien longtemps. Je devais avoir seulement 10 ou 12 ans. À l'époque, des Ghanéens étaient établis ici. Les gens pêchaient, bien sûr, mais ils cultivaient aussi des lopins de terre derrière leur maison. Ça n'existe plus aujourd'hui. Énormément de gens ont dû partir à cause de la pression de la mer. Ils n'en pouvaient plus. Nous avons deux problèmes ici, le manque de poissons et la montée du niveau de l'eau. Le poisson, il y en a moins à cause des méthodes de pêche destructrices pour l'environnement. Quant à l'océan, il grignote notre île et cela nous affecte beaucoup. Moi, j'ai toujours vécu ici. J'ai donné naissance à tellement d'enfants, j'en ai 10, et ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Autrefois, c'était facile. On pouvait boire en puisant l'eau du puits. Elle était douce et fraîche. Mais aujourd'hui, son goût a changé. On peut sentir l'eau salée qui s'est infiltrée. Notre île est en train de disparaître. Et nous prions seulement pour une intervention de nos anciens ou du gouvernement pour qu'ils nous permettent de partir pour une meilleure vie. Beaucoup de gens ont déjà construit des maisons ailleurs, ceux qui en ont les moyens. Mais ils ne partent pas toujours définitivement. C'est ici qu'ils gagnent leur vie. C'est ici qu'ils pêchent et qu'ils ont leur business.
Le témoignage, l'alerte d'un habitant de l'île Plantin au large de la Sierra Leone, en amont donc de la conférence des Nations Unies sur les océans aujourd'hui. Un rendez-vous, je vous le disais, pour lequel RFI est largement mobilisé, radio de service public, reportage invité tout à l'heure. Et puis notre édition spéciale, je le rappelle, autour d'Anne Cantner, ce sera à 8h10 heure de Paris.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Un retour qui fait des vagues au Cameroun, celui de l'opposant Maurice Kamto, tête de proue du MRC, candidat déclaré pour la présidentielle d'octobre prochain, qui avait prévu hier, après une tournée en Europe, de rencontrer ses partisans au siège de sa formation à Douala. Or, sur place, des milliers de personnes avaient bel et bien répondu présent, mais pas de Maurice Kamto, et pour cause, il n'a pu quitter son domicile qui avait été encerclé un peu plus tôt dans la journée par les forces de l'ordre. Reportage Polycarpe et Samba.
La foule n'a cessé de grossir devant le siège du MRC. Au fil des heures et sous un soleil de plomb, ils étaient plusieurs milliers à chanter à la gloire de leur leader.
Vous voyez la militarisation à outrance du siège du parti dans la région. Mais je peux vous dire une chose. Rien aujourd'hui ne pourra empêcher le président de venir saluer ces populations massées.
Attendu sur place pour une réunion annoncée avec les responsables locaux du MRC, Maurice Kamto n'a finalement pas fait le déplacement. À 16h, une courte vidéo du candidat déclaré à l'élection présidentielle a commencé à circuler de téléphone en téléphone. Maurice Kamto y donnait les raisons de son absence.
J'aurais bien voulu vous rencontrer comme prévu ce jour au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Daido. Mais à l'heure où je vous parle, je suis toujours séquestré et il est 16h. Je ne voudrais pas qu'une telle rencontre, si elle était encore possible aujourd'hui, ait lieu la nuit.
Maurice Kamto a terminé son intervention en invitant ses soutiens et partisans à rentrer chez eux au terme d'une journée de mobilisation inédite dans les rues d'une ville soudainement sous tension et où les autorités redoutent des manifestations de même nature ce lundi. Policarpe Sumba Douala, RFI.
Un appel en Centrafrique lancé par l'Église autour de la situation constatée à Bangassou, dans la zone du Mbomou, dans l'est du pays. Là-bas, depuis plus d'un mois maintenant, l'armée, soutenue par des combattants russes, multiplie les opérations contre un groupe d'autodéfense, les Anikpibé. Et en réaction, l'évêque de Bangassou, Monseigneur Aurelio Gassera, appelle aujourd'hui à l'arrêt de ces hostilités et à la mise en place d'un dialogue. Il demande aux autorités également de développer cette zone isolée du pays. Je vous propose d'écouter Monseigneur Aurelio Gazzera.
Depuis pratiquement un mois, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de déplacés, beaucoup de réfugiés qui ont passé la frontière, ils sont allés vers le Congo, et beaucoup de victimes, beaucoup de morts et beaucoup de personnes qui ont disparu. Trop c'est trop. Et effectivement, il y a eu trop de violence et nous, on avait déjà invité le gouvernement, qui devrait être le premier acteur, à ne pas répondre avec la violence et on avait dit plutôt de mettre l'attention au développement de la région. Bangassou, c'est à 750 km de Bangui, mais pour arriver à Bangassou, il faut une semaine avec un camion.
Et dans votre communiqué, vous appelez à la fin de ces violences et au dialogue.
Bon, pour nous, c'est justement de s'asseoir et d'un côté déposer les armes, mais aussi voir un peu comment aider cette partie du pays à sortir un peu de cette misère, parce qu'on n'a pas de route, donc on n'a pas d'enseignants, peu d'hôpitaux, donc la vie est très très difficile pour les gens.
L'alerte de l'évêque de Bangassou, Aurelio Gazzera, contacté par Guillaume Thibault. Cette décision du Rwanda à présent, qui claque donc la porte de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Kigali dénonce ici le fait que la présidence tournante ne lui est pas revenue. La diplomatie rwandaise y voit ce qu'elle juge être l'instrumentalisation de l'organisation par la RDC, avec le soutien de certains États membres. Mais quelles conséquences concrètement? Eh bien, si cette décision est surtout politique, elle ne devrait avoir que peu d'impact économique, à en croire l'analyse de Jim Adum Mandekor, ancien directeur central de la Banque des États d'Afrique centrale.
L'ensemble des échanges entre les pays de la CEAC, ça fait pas 2% contre 98% avec le reste du monde. Il y a très peu d'échanges entre eux. Donc, l'impact n'est pas important. Le Rwanda exporte essentiellement des services d'experts où, par exemple, les vols que sa compagnie effectue passent dans divers pays. C'est rwandais, qui est le plus représentatif de l'aspect économique, des liens avec le Rwanda. Le reste, c'est très peu visible, les exportations de café ou de thé du Rwanda. Donc, il risque de perdre un peu ces recettes d'exportation qu'il y a en liaison avec les services, quoi. Donc, je pense que la perte est plus politique in fine que économique.
L'analyse de Jim Adum Mandekor en RDC. L'insécurité à Kinshasa qui inquiète toujours plus les riverains avec une recrudescence des faits de braquage, notamment des braquages armés constatés en plein jour parfois. Le président Félix Tshisekedi a demandé d'agir lors du Conseil des ministres de vendredi. Il a appelé à la mobilisation des services de sécurité. Mais la société civile congolaise justement craint une implication des hommes en uniforme à l'image de Jonas Tshiombela, qui est le président de la nouvelle société civile congolaise, une plateforme d'ONG.
Nous constatons la défaillance de l'autorité de l'État à faire régner la paix sur l'ensemble de la ville. Des cas de violence sont monnaie courante et c'est chaque jour des braquages en plein jour, des assassinats ciblés, violents. Tous ces éléments sont des indicateurs qui montrent que cette ville n'est plus dirigée. Moi, je crains fort que dans les services de sécurité, il y ait des éléments qui troublent. On peut trouver les forces de l'ordre, mais à côté, le braquage peut avoir lieu. Donc, nous craignons que le service soit complice de ce qui arrive. Mais que l'inspection générale de la police puisse se mettre pour savoir s'il n'y a pas des éléments qui sont dans leur rang. Au niveau de la société civile, nous appelons toutes les organisations, les confessions religieuses, des intellectuels et des artistes que nous puissions nous mobiliser pour faire face à cette situation. Sinon, la ville et ne pas gouverner.
L'alerte de Jonas Tchombela en RDC. Allez, ça c'est un moyen ludique de faire passer des messages, un moyen d'initier les enfants au goût de l'écrit et à la lecture également. On appelle ça le théâtre de papier, le kamishibai, car ça nous vient du Japon. Et cela séduit jusqu'à Madagascar, où l'on retrouve Sarah Teto qui s'est intéressée pour nous à ce phénomène.
On ouvre grand les oreilles. Et maintenant, on ouvre grand les yeux pour écouter une magnifique histoire.
Ce matin-là, ils sont une trentaine de jeunes enfants assis devant Ravaka Tairmian. Entre les mains de la conteuse, un petit théâtre en bois dans lequel est insérée une série d'illustrations.
Quand on ouvre notre petit théâtre, nous allons faire « Ah !» Encore une fois. Ah ! Tout le monde voit bien ?
Oui.
Nous allons raconter l'histoire de Zhao le caméléon.
La narratrice raconte l'histoire en faisant défiler les images une par une. L'auditoire est captivé.
La lecture, ça commence aussi par écouter. L'intérêt, en fait, c'est de partager un moment avec les enfants et les stimuler à travers leurs regards et leurs oreilles. Et le kamishibai, en fait, c'est un très bon moyen parce qu'il est très visuel. Même s'ils ne comprennent pas tout, en fait, on a réussi à attirer leur attention sur la lecture, sur les sons, sur les couleurs, et ça leur permet en fait de faciliter plus tard leur rentrée en fait dans la lecture.
Outil pertinent donc pour l'apprentissage de la lecture, il est aussi très adapté aux personnes en situation d'illettrisme. En valorisant l'oralité et le visuel, ce format de récit immersif permet, selon les études réalisées sur le sujet à Madagascar, de transmettre des messages sociaux et pratiques de manière ludique et sans discrimination. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Aga !
RFI, 4h41, en temps universel.
Afrique Matin, sur RFI, Sébastien Duhamel.
Restez avec nous, bien sûr, sur la radio du monde. La pollution marine, la pollution plastique et les alertes qui se multiplient en amont de la conférence des Nations Unies attendue aujourd'hui sur la question à Nice. Reportage dans quelques instants aux côtés de scientifiques qui rassemblent des données dans l'océan Indien. On en parlera également avec notre invité Foga Agbetosou, responsable pour le Togo de l'ONG Sustainable Ocean Alliance. L'économie africaine également à suivre avec un marché qui se développe en Centrafrique. L'élevage de canards face aux poulets qui traversent une crise. L'humeur de Maman au programme aussi, bien sûr, comme tous les jours. Mais d'abord, c'est l'heure des sports. Et c'est avec vous, Saliou Diouf, bonjour.
Bonjour Sébastien.
On commence votre journal avec du foot et la RDC qui a conclu son stage à Orléans de fort belle manière.
Et avec une deuxième victoire, 3-1 contre Madagascar pour les Léopards, 3 jours après un succès, 1-0 face au Mali mercredi. Et ce dimanche, comme l'attaquant Samuel Essendé face aux Aigles, c'était au tour de Simon Banza, autre attaquant, de s'illustrer en marquant pour la première fois en équipe nationale, et pas un, mais 2 des 3 buts congolais. Très heureux de s'être illustré, il pense déjà à la suite et notamment aux éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de septembre.
Ouais, on est content, on finit bien ce stage. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. Et voilà, on est bien, le Congo va bien. On dira merci aussi aux supporters, ils ont été présents, ils nous ont supportés sur les 2 matchs, donc que du bonheur. On restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore et on est prêt pour le match au Martyr et en dehors.
Car la RDC aura un gros match à jouer contre le Sénégal, justement au Martyr, dans l'optique d'une qualification à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis.
Et pendant ce temps, d'autres matchs amicaux vont se jouer aujourd'hui.
Le Maroc, pays hôte de la prochaine CAN cet hiver, accueille le Bénin à Fès. Le Cameroun se déplace au Maroc, plus précisément à Marrakech, non pas pour affronter les Lions de l'Atlas, mais la Guinée équatoriale. Coup d'envoi des 2 rencontres, 20h temps universel. Les Comores se déplacent au Kosovo, le match débutera à 17h temps universel. Et sachez que la rencontre entre la Tunisie et la Centrafrique pourrait ne pas se disputer car les joueurs centrafricains menacent de faire grève à cause de primes non payées.
Un mot de basket, Saliou, avec la NBA.
Le match 2 de la finale des playoffs s'est joué cette nuit et c'est une défaite pour les Indiana Pacers de Pascal Siakam qui affrontait Oklahoma City. Le score 123-107. Le Camerounais et ses coéquipiers avaient remporté le premier match. Le match 3 aura lieu jeudi prochain.
Le rendez-vous est pris. Allez, un peu de cyclisme pour terminer votre
votre journal.
La quatrième étape du Tour du Cameroun qui s'est courue ce dimanche entre Yaoundé et Bafia sur une distance de 122 km a été remportée par l'Algérien Mohamed Najib Hassal, suivi de l'Allemand Lucas Carstensen. Au classement général, le maillot jaune est toujours sur les épaules du Camerounais Boris-Michel Tientje. Les écarts sont encore serrés. Le cinquième du général, le Béninois Gloral Seizonou, est ainsi à 58 secondes. Le champion national du contre-la-montre porte aussi le maillot blanc de meilleur jeune depuis la deuxième étape et il ne compte pas s'arrêter là.
C'est une fierté pour moi de porter ce maillot. C'est pas du tout facile de garder ce maillot jusqu'à cette quatrième étape. Mais mon objectif, c'est de garder ce maillot jusqu'à la fin du tour. Et j'espère que ça sera possible grâce à l'aide de mon équipe. Cette étape, c'est une étape qui grimpe un peu tout dans les 10 derniers kilomètres. L'arrivée, même si c'était sur un faux plat montant. Grâce à notre performance, grâce à notre niveau actuel du Bénin, je crois qu'on peut faire plus que ça. Si le maillot jaune n'est pas très loin de nous, pourquoi ne pas essayer? Seulement 50 secondes lorsque les attaques vont vouloir se placer. On va essayer de très bien se positionner dans les attaques, dans les échappées. Et pourquoi pas viser le maillot jaune également.
Et ce lundi, cinquième étape, Tonga, Bangang, Tonga.
Et on suivra ça, évidemment, sur RFI. Merci beaucoup, Salio Diouf. À tout à l'heure. En attendant, 4h45 ici, en 4h45 en temps universel, 6h45 à Paris, on jette un coup d'œil sur l'actualité internationale. Et ce Madeleine, ce bateau humanitaire qui tentait de rejoindre la bande de Gaza, dérouté cette nuit par les autorités israéliennes. Le voilier qui était parti d'Italie le 1er juin avec à son bord 12 militants, dont l'activiste suédoise Greta Thunberg et la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan. L'organisation Freedom Flotilla, qui a affrété le bateau, assure que l'équipage a été kidnappé par les forces israéliennes. Quand de son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères affirme que l'embarcation fait route en toute sécurité vers les côtes d'Israël et qu'il est prévu que les passagers retournent dans leur pays. Aux États-Unis, quelques 300 militaires de la garde nationale arrivés à Los Angeles, envoyés par le président Trump pour rétablir l'ordre dans la ville, dit-il, alors que des manifestations contre la politique migratoire en cours s'y déroulent. De leur côté, les gouverneurs démocrates de Californie dénoncent un abus de pouvoir alarmant. Et puis c'est aujourd'hui le 9 juin qu'entre en vigueur le travel ban décidé par Donald Trump justement qui interdit aux ressortissants de 12 pays de se rendre sur le territoire américain. Pour rappel, les pays africains concernés sont la République du Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, le Soudan, la Somalie et la Libye. D'autres pays sont eux aussi concernés par ces restrictions. Côté africain, Togo et Sierra Leone et Burundi. L'actualité également marquée aujourd'hui bien sûr par ce rendez-vous autour des océans, la troisième conférence des Nations Unies en la matière, l'UNOCTROI, qui se tient à Nice sur la Côte d'Azur, co-organisée par la France et le Costa Rica. Elle devrait voir la participation d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Et avant notre édition spéciale qui sera présentée par Anne Cantner entre 6h10 et 6h50 en temps universel, on se plonge dans les eaux africaines pour notre reportage du jour, des eaux sur lesquelles les données scientifiques viennent encore à manquer afin de comprendre l'ampleur, les conséquences de la pollution plastique. Mais pour combler toutes ces lacunes, plusieurs études ont été lancées récemment dans l'océan Indien. Aux Seychelles, c'est un reportage de Sarah Teto.
Aussi idylliques soient-elles, les plages des Seychelles ne sont pas épargnées par les détritus qui viennent s'y échouer à chaque nouvelle marée, explique ce plagiste.
On retrouve des petits bouts de plastique, des sachets. On nettoie deux fois par jour. Même les touristes ramassent les saletés et nous les apportent pour qu'on les mette à la poubelle.
Cette pollution, visible à différents degrés sur les côtes africaines, ainsi que ses effets, reste cependant assez mal connue à l'échelle du continent. Le scientifique Yashwin Niol, spécialiste de la chimie des océans, est le co-auteur du livre « The African Marine Litter Outlook ».
Pour comprendre la pollution plastique marine, il est essentiel de commencer par identifier les sources ainsi que les voies de dispersion des déchets plastiques. En fonction des courants marins et de la topographie côtière, ces déchets s'accumulent dans certaines zones spécifiques le long des côtes africaines.
Les chercheurs ont défini deux zones qui concentreraient des milliers de kilomètres carrés de ce qu'ils appellent des soupes de microplastiques. L'une dans l'océan Atlantique au sud de l'Afrique du Sud, l'autre dans l'océan Indien au sud de Madagascar. Néanmoins, rappelle Yashwin Niol,
il est difficile de se prononcer sur les sites exacts où s'accumule le plastique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de données sur l'étude des courants autour du continent africain. africains.
Et c'est particulièrement le cas pour la façade est de l'Afrique, comme l'explique Christophe Maes, océanographe et physicien à l'IRD.
L'océan Indien a un gros retard par rapport aux autres océans, tout simplement parce que c'est pas forcément le lieu de passage des principaux rails de navigation océanique.
Pour y remédier, un programme de collecte de données a lieu en ce moment même dans le sud-ouest de l'océan Indien, grâce au largage, à partir d'un navire de recherche, de bouées dérivantes qui émettent un signal GPS.
Ok Etienne, on est en position à l'arrière, la bouée est activée, on va la larguer.
Ok, bien reçu, on arrive sur zone.
Ok, parfait. 3, 2, 1, largage.
Ok, bouée dérivante larguée, je prends la position.
Quand on lâche les bouées, ça nous permet d'avoir une description au moins à l'échelle de la bouée des principaux mouvements de l'océan. Et puis à partir des modèles, d'essayer de mieux comprendre la dynamique que peuvent subir les plastiques dans l'océan Indien. Un second intérêt en fait du largage des bouées et d'étude de leur dispersion, c'est qu'on peut remonter à l'origine de ces plastiques qui viennent polluer en fait l'ensemble de la région.
Si la majorité des plastiques en mer provient de la terre ferme, les chercheurs estiment toutefois que l'abandon et la perte d'équipements de pêche dans les océans seraient responsables jusqu'à 30% de la diminution des ressources halieutiques. Sarah Detto, de retour des Seychelles, RFI.
Un reportage à retrouver bien sûr sur internet et demain on continuera à aborder cette problématique sur RFI. Et oui, car l'UNOC 3, ce sommet sur les océans, s'ouvre donc aujourd'hui à Nice. On en parle également avec notre invité, Foga Agbetosou, responsable pour le Togo de l'ONG Sustainable Ocean Alliance, l'Alliance pour un océan durable en français. Très préoccupé également par la question de la pollution plastique, ce sera évidemment l'un des sujets majeurs de ce rendez-vous de l'ONU aujourd'hui. Foga Agbetosou espère des engagements ici, car le constat est pour l'heure alarmant, nous dit-il au micro de Christophe Boisbouvier.
L'Afrique, pour information, a produit plus de 17 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Même moins de 10% de ces plastiques sont recyclés sur le continent. Et le reste finit, comme vous le savez, dans les rivières, les fleuves et dans les deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien.
Et le problème, c'est que ces plastiques ne sont pas biodégradables, c'est ça?
Oui, la majeure partie de ces plastiques n'est pas biodégradable. Une fois qu'ils entrent dans l'environnement marin, ils prennent des décennies, quelquefois même des centaines d'années, à se désintégrer par suite des processus physique qui se déroule dans la mer. Et donc, année après année, les plastiques augmentent en pleine mer et cela constitue un danger notoire aux organismes qui vivent dans la mer. Et lorsque ces plastiques arrivent à se désintégrer aussi, ils se désintègrent et deviennent des microplastiques qui sont quelquefois confondus par certaines espèces marines comme des aliments. Donc, ces espèces les ingurgitent et tout cela finit sur nos tables lorsque nous consommons de ces espèces.
Donc, il y a des poissons qu'il ne faut plus manger, c'est ça?
Je ne dirais pas qu'il ne faut plus manger, mais on ne sait pas quel poisson a ingurgité ces microplastiques et lequel n'en a pas pris. Donc, nous nous attendons à ce que des avancées notoires soient faites sur la question de la pollution plastique, puisque c'est une question qui touche non seulement l'Afrique, mais aussi les autres continents. Et le problème également, c'est que les plastiques qui sont rejetés sur d'autres continents n'ont pas besoin de visa avant de venir sur nos côtes.
Entretien de Christophe Boisbouvier avec le défenseur de l'environnement Foga Agbetosou, à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes vers 7h45 heure de Paris. Et je vous rappelle, bien sûr, notre édition spéciale tout à l'heure à ne pas manquer sur cet enjeu crucial. Rendez-vous à 8h10, toujours heure de Paris, ce sera jusqu'à 9h. Et pour le moment, on a rendez-vous avec l'économie. Rendez-vous qui nous emmène ce matin en Centrafrique pour évoquer là-bas l'élevage de canards, qui reste assez rare, mais qui est une alternative en devenir au poulet, dont la production traverse une crise en ce moment. Le marché du canard manifestement amené à se développer. Donc à Bangui, c'est un dossier Afrique Économie signé Rolf Steve Domialeux.
Dans cette concession d'environ 1 hectare, les canards sont élevés en liberté dans des cabanes en bois. L'endroit est bien aménagé et clôturé. Née dans une famille d'éleveurs et d'agriculteurs, Natacha Rossia Epilaki s'est lancée dans l'élevage des canards il y a 3 ans. Ce matin, elle tient une vieille boîte de conserve en main et lance à la volée des graines de maïs au canetan.
Les canards sont rares sur le marché en République centrafricaine. Pendant les fêtes, les gens ne vendaient que des poulets de chair. Ce sont nos voisins congolais, de Zongo, qui ravitaillent le marché de Bangui. Et ils repartent avec l'argent. C'est ce qui m'a motivé à faire l'élevage des canards.
Dans sa combinaison bleue, Jesse Mabada, l'un des employés de l'entreprise Rofpal, prépare son pouce-pouce pour aller à la conquête des clients potentiels.
À 5h30 ici.
À 5h30, on doit être là pour nous occuper des canards. Il y a beaucoup de clients à Bangui. J'arrive toujours avec une vingtaine de canards, mais le soir, je rentre avec mon pouce-pouce vide.
Certains canards sont vendus aux restaurateurs, mais la plupart sont commercialisés sur les marchés de la capitale. Natacha possède actuellement 80 canards et une centaine de canetons.
Au début, j'ai démarré avec 3 femelles et un mâle. Mais le prix minimum est de 5 000. Annuellement, je peux gagner 500 000.
Un revenu qui dépasse le salaire minimum de 29 000 francs CFA par mois. Et si le prix des canards est plus élevé d'environ 1 500 francs CFA qu'un poulet traditionnel, les canards cependant ont plus de chair, apprécient les consommateurs comme Gaëtan.
Sur les marchés, les canards ont remplacé les poulets de chair. Parce que les éleveurs de poulets ont du mal à s'approvisionner en poussins. Ces derniers jours, je n'achète que des canards pour mon restaurant.
On va ce canard aussi.
Aujourd'hui, Natacha a ambition de vendre ses canards sur tous les marchés du pays et ceux de la sous-région. Mais dans ce travail, les difficultés ne manquent pas.
Les tourteaux de soja et coton sont difficiles à trouver. Les produits vétérinaires sont chers parce qu'ils sont importés de l'étranger. Je n'ai pas de couveuse ni d'électricité photovoltaïque.
Avec son projet d'élevage de canards, l'entreprise Rofpal a remporté en avril dernier le prix du championnat des start-up au salon de l'entrepreneuriat féminin à Bangui. Malgré les nombreux défis, elle compte créer cette année une unité de vente d'œufs de canard en palette, une première en République centrafricaine. Rolf Esteve Domiale, Bangui, RFI.
Allez, avant RFI matin avec Andréane Mélard, dans un peu plus de 4 minutes, l'humeur de Maman. Et en ce mois de juin, Maman, la saison de football, nous dites-vous, touche à sa fin, oui, mais pas la saison politique en revanche.
Oui, quand arrive le mois de juin d'une année impaire, eh ben le football se déguste goutte à goutte, la bouteille étant presque vide. Bah oui, les plus grands championnats ont déjà donné leur verdict, la Champions League 2025 dort au camp des loges, il n'y a pas de Coupe du Monde cette année, pas d'Euro, ni de Copa América, pas de Jeux Olympiques, et la CAN est en décembre. À part une ou deux compétitions, ben il ne reste plus rien. Les amoureux de football sont déjà en manque avec la dépression qui pointe son nez, tandis que les footballeurs, eux, sont contents parce que c'est les vacances pour eux. c'est là qu'on se demande, mais est-ce que les hommes politiques prennent des vacances comme les footballeurs, par exemple? Eh ben, la réponse est oui, sauf qu'on peut dire sans peur de se tromper que quand les footballeurs prennent des vacances, eh ben, ils sont vraiment en vacances. Alors que même en vacances, les hommes politiques sont toujours en campagne électorale. oui, pour leurs vacances, les footballeurs choisissent les endroits les plus glamour, les îles les plus paradisiaques, et ils te le montrent sur Instagram. Et t'es content pour eux. Tu te dis qu'ils l'ont bien mérité après tant d'efforts, que ça leur fera du bien pour revenir en forme à la rentrée, gagner d'autres trophées. Et surtout, tu te dis qu'ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Hein. Mais un homme politique, il peut pas faire ça. Il peut pas partir en vacances n'importe où. Il peut pas partir faire le beau dans les mêmes endroits glamour et paradisiaques que les footballeurs stars. Bah oui, parce qu'il vous connaît, vous les Gondouanais. La première chose que vous feriez sera de faire des captures d'écran et de les partager partout sur les réseaux sociaux en disant que c'est scandaleux, regardez-le, cet homme politique, il est parti en vacances avec l'argent du peuple, etc. Et il va dégringoler dans les sondages et il sera battu aux prochaines élections, si vous êtes en démocratie, quoi. On me souffle dans l'oreillette que ce n'est pas vrai. Les hommes politiques partent en vacances dans ces mêmes endroits paradisiaques avec l'argent du peuple, mais ils se cachent et ne font surtout pas de selfies sur les réseaux sociaux. Mais si par la plus grande des malchances, tu tombais sur lui pendant ses vacances dans un couloir ou devant un ascenseur et qu'il ne peut pas faire semblant que ce n'est pas lui, eh ben il ne se dégonflera pas, l'homme politique. Il te fera son plus beau sourire, te saluera comme si t'étais son plus grand pote avec le sous-titre évident « S'il te plaît, ça reste entre nous et surtout, vote pour moi ». Eh oui, l'homme politique, le vrai, est toujours en campagne électorale, même quand il dort. Quand il vient assister à un match de foot, c'est... Vous voyez, hein, je suis comme vous. Votez pour moi. Quand il fait ami-ami avec son pire opposant, ne t'y méprends pas, c'est pour gagner des voix. Il est toujours en campagne électorale. Quand il tombe la chemise, quand il s'assoit au maquis avec vous, quand il fait un selfie avec tes enfants, quand il te tutoie, quand il esquisse quelques pas de danse, il est toujours en campagne électorale. L'homme politique, il n'est jamais en vacances. À demain.
À demain, maman, du lundi au jeudi sur RFI. Merci à Laurent Hérault qui a réalisé cette Afrique Matin. Nemo en Pisse à la rédaction en chef. On salue ce matin Calvin Dépense, auditeur qui nous suit à Ariwara en RDC. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. On retrouve donc Andréane Mélard pour RFI Matin. Bonjour Andréane.
Bonjour Sébastien et à tout à l'heure RFI Matin. Bienvenue à vous pour cette matinée entre Paris et Nice où se tient à partir d'aujourd'hui le 3e sommet des Nations Unies sur l'océan, édition spéciale à suivre dans une heure sur RFI en direct de la conférence. Et ce lundi marque le début d'ailleurs d'une semaine spéciale sur RFI dans le journal à suivre. On fait le point sur tout notre dispositif avec Simon Rosé, chef du service climat environnement. Restez avec nous.
Bonjour, c'est Juan Gomez. À partir d'aujourd'hui, les ressortissants de 12 pays, dont 7 africains, sont interdits d'entrer aux États-Unis. Donald Trump justifie cette décision par un impératif sécuritaire. Quelle doit être la réaction des pays concernés ? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.